les excréments sont extrêmement impurs. On n'a pas le droit de penser, même pas dire. Enfin, dire, c'est certain, mais même penser. On n'a pas le droit de penser une chose de Torah en face d'excréments. En face, mais à 1000 mètres. J'ai un gros paquet d'excréments que je peux retenir. Si je vois, j'ai pas l'envie, il y a un excrément ici dans la nature, à 1000 mètres, je ne vois pas, c'est rien. Mais si je peux le voir, d'accord, tac, il y a devant moi, comme ça, même penser de la Torah, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est ma Torah, c'est simple, c'est des étincelles de sainteté, elle est happée, donc, Zohar est très très marqué là-dessus, très très sévère là-dessus, c'est happé par le mal, tu donnes l'excrément, c'est quoi? C'est le mal maintenant qui est nettoyé, il n'y a plus de bien là-dedans, c'est fini, mort, voilà, c'est la mort pour la mort, qu'est-ce qu'on fait d'excrément? Rien.
Oh, mais c'est que des déchets de nourriture.
Oui, mais je suis en train d'expliquer que chaque chose matérielle que tu as, elle a sa charge spirituelle, t'as pas de réalité, c'est ce que la physique moderne a dévoilé, d'accord. Dans la réalité la plus morte que tu as, pour prendre une pierre, d'accord, c'est encore moins qu'un excrément, donc un peu d'énergie, ça peut être recyclé, mais tu prends une pierre, tu fais de la recycler, pas grand chose, hein. Elle reste pierre. Et bien, au microscope, que ce soit dans une pierre, des milliards d'atomes avec une énergie fantastique. Si je peux casser un atome, je crée une bombe atomique. Tellement la puissance, l'énergie qu'il y a en dedans, dans un atome nucléaire, d'un nucléon, donc d'un noyau d'atome, tellement c'est fort. Donc c'est une énergie énorme. Donc la science reconnaît que pour chaque chose matérielle, c'est aussi une énergie qui la fait vivre. Parce que Chazal, ils ont dit, pour chaque brin d'herbe, tu as un ange qui vient, que tu as besoin de lui, qui lui dit pousse. Un petit enfant, on va imaginer un petit ange qui vient comme ça, mais il pique, chaque côté de champ, il est bourré de brins d'herbe. Un homme plus intelligent, il comprend. Non, il y a une énergie spirituelle qui est la vie, d'accord, qui est un envoyé d'Hachem, c'est quoi un ange? Un envoyé d'Hachem qui est là pour faire vivre. Une énergie spirituelle qui fait vivre maintenant ce végétal ou cette pierre. Donc tout a son pendant spirituel. Maintenant, le pendant spirituel, il vient d'où? Il peut être une source de mal, source de bien. Les déchets, c'est tout dans le mal. Les écrémons, c'est tout dans le mal. La pomme que j'ai mangée, c'est mélangé bien et mal. Quand je mange, je fais une sélection bien et mal. Je dois penser que je fais cette sélection. Et Shabbat, on fait sélection entre bien et bien. C'est Borer. Ochel, mais Ochel. Et pas Ochel, mais Solet. C'est un truc encore plus profond.
Aux toilettes aussi Shabbat, quoi.
Pardon?
Aux toilettes aussi Shabbat.
Enfin, très grand écoute Shabbat. Très, c'est une histoire de beaucoup manger Shabbat. Enfin,
je dis, on va aux toilettes aussi.
Oh, ok, c'est bon. Je dis maintenant, on fait un très grand écoute. Pas rentrer dans le détail. On fait un plus grand écoute que toute la semaine. Parce que c'est une histoire de beaucoup manger Shabbat. Et pas beaucoup manger en semaine.
Shabbat reçoit
un supplément d'âme tellement grand dans Shabbat rentre, qu'on a une capacité de tikkun, de réparation des étincelles beaucoup plus grand qu'en semaine. On mange du poisson. Pourquoi du poisson? C'est le poisson, l'animal le plus facile à réparer. Au niveau animal, tu as les mammifères, vache, mouton, chèvre, etc. pour te manger, et t'as le poisson. Tous les animaux mammifères, il faut les égorger. Il peut y avoir des problèmes de taref, des problèmes de nevela. Après, il faut faire la salaison, enlever tout le sang. Et seulement après, on peut manger la viande.
Le poisson, c'est quoi le nevela?
Nevela, c'est que c'était mal été égorgé. Taref, c'est qu'il y a un problème de santé, que l'animal ne peut pas tenir 12 mois vivant. Il y a un trou dans l'estomac, un trou dans le poumon, un trou dans la membrane crânienne, etc. Il y a 18 sortes de trépas. Et Nevela, elle est morte de façon non cachère. Ou elle est morte de maladie, ou elle est morte, elle a été mal égorgée. Il y avait, par exemple, sur le couteau, il y avait un petit couteau, une coupe paille, pas extrêmement bien aiguisé, mais extrêmement bien aiguisé, même des êtres humains normaux, quand ils vivent, on ne peut pas vérifier ça, c'est... une grande sensibilité qu'ont les experts pour vérifier si c'est vraiment complètement. Un temps, quand j'étais jeune, j'ai appris un peu l'achetage. Alors, il faut comme ça, pendant des heures, on aiguise notre couteau. Alors, Rabota, il avait dit, on passait comme ça. Il avait un voisin, Chochet, un expert. Alors, pendant des heures, il a bien travaillé son couteau comme ça, que ce soit vraiment bien comme Nissis. Il a ping-dong, il a sonné chez son voisin. Excusez-moi, monsieur, je suis en train d'approcher. Est-ce que vous pouvez vérifier mon couteau s'il est bien? Oui, ça va pas du tout. Il a rendu comme ça. Et lui, il croyait que c'était super, super, super bien aiguisé. Donc, c'est vraiment une grande sensibilité, un grand travail. Et si jamais il s'avère que le couteau n'est pas bien aiguisé, l'animal égorgé est nevela. Il ne faut pas le manger. Le poisson, par contre, tu sors de l'eau, hop, 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 quelques secondes. Il étouffe et il est caché, alors même cru, sushi. D'accord?
Sur la tueur, non, on n'a pas
le droit. Aussi, tu le tues comme tu veux. Tu le tues comme un coup de sur la tête, tu le tues comme tu veux. pas besoin de faire une salaison, rien, tout est permis. Les vers, attention qu'il n'y a pas de vers dans la tête. Il y a des fois des vers dans les poissons, d'accord. Mais à part les vers, il n'y a pas de problème. Il est cachard tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, il est beaucoup plus pur que l'animal. Dans cette mesure, son tikkun, sa réparation, il a des charges spirituelles beaucoup plus grandes de bien que de mal. Il est très facile de réparer le mal qu'il a en lui. Par contre, les animaux, c'est plus dur. Les animaux non cachers, il y a aussi du bien là-dedans. Il y a tellement de mal par rapport à tellement peu de bien que si on ingurgite, le mal reste en nous, on ne pourra pas l'évacuer. Donc on ingurgite des forces spirituelles de mal, qui nous éloignent de mort, qui nous éloignent beaucoup, beaucoup d'Hachem. C'est le principe profond de la cache-coute. Donc la première pensée que Josh Ben Israël notre mange, c'est penser qu'on fait ce bureau, cette sélection entre bien et mal. Deuxième pensée, quand on mange, vous pensez qu'on fait le tikkun des âmes, le tikkun, donc la réparation des âmes réincarnées dans la nourriture. Attention, il y a des âmes sensibles, vous ne comprenez pas ça, quoi. Alors, grand-papa est dans la pomme, oui. Non, mais il y en a qui n'arrivent pas à supporter qu'ils sont en train de manger grand-papa. Donc, il faut prendre ça à un niveau plus ésotérique, ceux que ça dérange, qu'ils oublient cela. Ceux qui arrivent à supporter ce genre de pensée, il n'y a aucun problème. Et de nouveau, c'est Shabbat, on a une plus grande capacité de réparer les âmes réincarnées qu'il y a dans les aliments. Mais si on fait la bracha, si on ne fait pas la bracha, ça ne marche pas. La bracha avec beaucoup d'intention, bracha avant, bracha après.
La personne, elle sent qu'on le croque?
Non, elles ne sont pas du tout qu'on la croque, je ne pense pas. Mm-hmm. Mais la sélection qu'il y aura, elle la libère maintenant de son emprisonnement dans les forces du mal.
Et à part la échelon, mais pas le poisson au moment des brachot. Est-ce qu'il faut que le poisson l'entende les brachot?
Non. Quoi qu'il entende, il faut que toi tu penses que ta bracha est valable. Si tu fais la bracha, tu penses à rien, c'est un problème. Parce que si tu fais la bracha sur un aliment, après on amène un aliment qui est meilleur de la même bracha, tu vas refaire la bracha. Si tu n'as pas pensé. Et de même, lorsque tu sors à l'extérieur, la bracha que tu as fait n'est pas valable. Donc pour que la bracha qu'on fasse avant le repas Shabbat ait l'impact nécessaire, il faut penser deux choses. Un, que je rends quitte tout ce qui a la même bracha que cette bracha-là, même si c'est meilleur et c'est pas là. Deux, que c'est valable aussi pour l'extérieur de ma chambre. Et c'est valable pour tout l'immeuble. Sinon, ça ne servait à rien à ta bracha. Ça veut dire que pour ce que tu as mangé maintenant. Et tout le but de ce bracha, pourquoi elle est autorisée? Parce qu'on va rendre quitte des choses qui éventuellement n'auraient pas été rendues quitte par le motzi. Parce que le motzi ne rend quitte que ce qui se mange avec le pain, ce qui se mange sans son de pain. Tu as des amandes. Tu as la moutarde. Fais ça à colle. D'accord, on mange la moutarde avec du pain, c'est rare. D'accord, on fait chacol dessus, oui ou non. Il y en a qui disent que c'est un sapin, c'est un doux. Pour être certain de pas avoir de problème, tu goûtes la moutarde avant, chaque fois. Tu penses rendre quitte tous les chacols faire de manger durant le repas. Tu penses rendre quitte aussi tous les nouvelles, pour ça quand tu sors maintenant faire des tas de dimes, ça, tu ne vas pas en faire la bracha. Hein. Et c'est bon, oui.
Je n'arrive pas à saisir cette idée qu'il y ait du mal dans la pomme. C'est-à-dire, si on mange la pomme, s'il y a vraiment du mal dans la pomme, la pomme, on va la digérer et elle va sortir. Donc pourquoi ça resterait pas dans la pomme, même la pomme, si...
Il y a du bien et du mal. Quand on l'est, il y a une partie qui sera digérée, qui passe en énergie, une partie que tu vas excréter. C'est que tu excrètes, parce que ça fait des déchets.
D'accord, on n'a pas besoin de faire le tri avant de la manger, la pomme, si notre corps, il le fait.
Alors, j'expliquais que parallèlement au fait que ton corps fasse un tri matériel, il y a aussi un tri spirituel. Et pour que ce tri soit bien fait, il faut faire la bracha. On parle de tri spirituel maintenant. Le tri matériel est un exemple de ce qui se passe au niveau spirituel.
Mais
il faut y penser.
Si je ne fais pas le tri spirituel, le mal de la pomme, si je le mange, il restera.
Il a lieu, mais moins bien. Il a lieu et moins bien. Il restera un peu de mal dedans, absolument.
Et il va me faire quoi ce mal?
Tu vas être loin de jeûne.
Parce que j'ai mangé une pomme.
Sans bracha. Sans bracha, bien sûr.
Vous avez dit le poisson, son tikkun est plus facile. C'est parce qu'il est recouvert de la surface de la terre.
Non, j'ignore pourquoi il est plus facile. Ça se peut que ça va avec le déluge. Parce qu'on voit qu'avant le déluge, tous les animaux étaient interdits à la consommation. Et après le déluge, ils sont devenus permis à la consommation, voire même conseillés dans les cas nécessaires de fête, etc. Donc on voit qu'il y a un tikkun qui existait après le déluge et pas avant. Je veux dire qu'au niveau spirituel, le déluge a dû faire un changement. Oui, Annie.
Comment on peut faire le tikkun sur des choses qui ne sont pas consommables? Par exemple, une table. Je ne sais pas, moi, une terre.
Alors, les choses non consommables, c'est marqué. C'est marqué que Il y a quatre niveaux, d'accord ? Minéral, végétal, animal et humain. Bon, on ne mange pas des êtres humains, pas qu'ils connaissent leurs êtres humains, c'est eux qui doivent faire leur propre tikkun. Au niveau minéral, végétal et animal, il y a un tikkun. Comment ? On mange le végétal, on mange l'animal, on fait le bracha dessus. Le minéral nous provient de deux façons, ou par l'eau, c'est le minéral, le sel, et des morceaux minuscules de minéral qui montent dans les végétaux. Des petits grains de sable, des oligo-éléments, des éléments terrestres, la terre, d'accord, qui montent dans la photosynthèse, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu prends maintenant du minéral, tu le rends végétal. Donc, lui, c'est un tikkun. L'humanité le fait un tikkun. Le monde, d'accord, le monde, il fait un tikkun où on prend maintenant du minéral, on le rend végétal. Les animaux viennent, mangent le végétal. L'homme vient, mange l'animal. C'est pour ça qu'il y a une. Tout ça pour dire, donc nous sommes partis maintenant. Attends, tu as une question, Lior. Ouais.
Il a dit que l'animal, de ceux qui sont interdits, c'est par rapport à ce qu'ils ont beaucoup de mal en eux et peu de bien en eux.
Oui.
Pourquoi on n'aurait pas le droit au chien alors qu'il est considéré comme animal de vie ? Le meilleur en lui-même qui est très.
Quand je parle de bon ou mal, je ne crois pas qu'il est gentil ou mignon ou d'accord. Par exemple, mon beau-père, il nous a amené ce Shabbat-là, une tête de mérou. T'as vu une tête de mérou ? C'est un loup de mer, d'accord ? C'est un poisson cruel, méchant, d'accord ? Comment les cacher ? L'escargot qui est tellement gentil, il n'est pas cacher, d'accord ? prends un bœuf, d'accord ? Un bœuf de corrida, d'accord ? Il est cacher. Prends un âne, tout gentil, tout mignon, il n'est pas cacher. On parle maintenant des qualités d'âme, s'ils sont gentils ou méchants. On parle pas de ça. On parle de leur réalité spirituelle. Ça n'a rien à voir. Oui.
Il y a eu un cas comme ça, il y a 10 ans. Il y a eu un accident d'avion.
Dans les Andes, c'était 25 ans.
Ouais, il y a 25 ans.
Ils ont mangé de la chair humaine. Quel est le statut de la chair humaine ? C'est maintenu par la Torah clairement qu'on ne peut pas manger de la chair humaine. Et moi, c'est marqué, ok, Rishoni. Il y en a qui disent que c'est permis. Il y en a qui disent que c'est un assez. C'est marqué, voici les animaux que vous mangerez. Donc on mangera les animaux et pas les êtres humains. Les animaux que vous mangez, les animaux et pas les êtres humains. Il y en a qui apprennent, c'est un lota, c'est. Comment ils appellent ça ? J'ai oublié. Mais c'est un otage, c'est une loi négative. Donc, on va faire des choses. Donc, attends, si c'est pour sauver une vie, pas de problème, on mange.
Bon appétit. Et si c'est un Kohen, on va manger.
Et alors ? Tant pis pour le Kohen. Non,
est-ce que le Kohen,
il a le droit de manger ? Il s'agit de sauver une vie humaine, d'accord ? On sauve une vie humaine, à tout prix, excepté les trois péchés graves. Tuer quelqu'un pour sauver ma peau, non. Faire une idolâtrie, non. Faire une vie d'une femme, non. Bien sûr, et bien sûr pire.
On va faire la bise et le femme, ça sourd.
Oui, on va faire ça, on passe à un autre sujet maintenant, oui.
C'est pas un petit coup. Justement.
D'accord, bise et pire. Ouais. Mieux vaut se faire tuer que de faire ça. Je vais faire mon cours à 9h20 du matin et j'ai expliqué ça en long, en large, on a un peu de travers.
Un
petit coup de réparation. Donc pourquoi nous sommes partis ? Oui, excuse-moi.
Moi j'ai des questions, moi. Est-ce que tous les aliments qu'on mange de nos jours, ils sont visibles ?
On ne sait pas qui est incarné dans quoi. Il y a une bonne chance que ce soit incarné, surtout Shabbat. Une fois le rabbi Shlomo Shaoul, Zatzal, c'est bien de faire une mitzvah de préparer quelque chose soi-même pour Shabbat. C'est lui qui il cuisait, il friait les poissons. C'est un très grand rab, lui. Vous voyez des choses que nous, on ne voit pas, c'est clair. Super clair, d'accord. Maintenant, vendredi soir, ça s'est revenu. Et lui, il a donné du poisson. Bon, à manger son poisson à lui, alors que. Bon, à midi, il reste encore du poisson de la sœur. Ils ont mangé le poisson de la sœur. Là, si on a chéché, de vous, quelqu'un d'autre venait, je voulais amener du poisson. Il a mis ses poissons, ils n'ont pas eu le mérite. Parce qu'ils étaient destinés à être mangés par le rab, c'est leur tricot, ils n'ont pas eu le mérite. Tu comprends ? T'imagines-le. Imagine. Un pauvre juif qui a une relation avec une femme interdite. Alors, on est souvent en guigoule, en incarnation. Alors, tu peux jouer avec un animal impur, comme un chat, une souris, un histoire, un truc terrible. Alors, déjà, il faut que Hachem t'envoie un animal pur, ou bien impur, mais tu es revenu dans une poulpe, d'accord ? Et tu es pris par les tentacules de la femme qui le prenait, et en t'écoute, il devrait être maintenant lui-même un tentaculaire, d'accord ? Bon, pauvre poulpe qui est dans la nuit, qui est dans la mer, on l'appelait Yossi. Yossi dans la mer, en train de rêver que faire son tikkun. Il rêve maintenant de la table de Shabbat, est-ce que je pourrais être en train avec ma famille, et je suis un bête poulpe dans la mer, qu'est-ce qui fait froid. Tout maintenant, alors il rêve de se faire dévorer par un poisson, mais un poisson cachère. Manque de peau, c'est pas un poisson cachère qui vient le manger, c'est, allez, donne-moi une anguille, là, plus de poulpe. Ok. L'anguille doit être maintenant dévoré par un poisson cachère. Allez, un gros poisson cachère, un thon. Il vient, tac, il a mangé l'anguille. Le thon doit être pêché par des pêcheurs. Il est pêché par des pêcheurs, pas au rachet. Maintenant, s'il arrive là, maintenant, il se met en boîte, et voilà, il est aussi dans la boîte maintenant de conserve. Ok, maintenant, il va être mangé par un goy ou par un juif. D'accord ? Baruch HaShem, c'est Moshe qui vient, qui prend. Yossi n'en peut plus de quoi. Ah, Baruch HaShem, Baruch HaShem. Il va être enfin son tikkun de la boîte de thon de Yossi. Et Moshe, il ouvre la boîte de thon. Ah, c'est bon. Et la bracha, t'as arrêté la bracha. Je suis. Retourne quelque part. Boult. C'est important. C'est important. C'est important.
Oui. Une deuxième question par rapport au carré de verre. Si on est excommunié du peuple, comment on peut se relier avec les chefs? La prière, ça, il s'arrête du moment qu'on est carré.
Alors, bien qu'on ait retranché, il reste quand même un petit fil par lequel on peut se rebrancher. Et il reste un petit quelque chose. Sinon, effectivement, c'est mort. Quoi. Mort, mort.
Comment on se rebranche?
Tout va. Tout va. La chouf, hey. Nous, kei, bav, kei. Nous, la chaîne, on a en nous.
On est tellement
en Averroth
pendant le long de la journée que
chaque fois,
on
va, c'est
même
plus dans la chambre d'un Tchouba. Comment sont-ils dans ta chaîne? On est du Moussard. On ne peut pas changer du jour au lendemain, tchac. D'abord, si Ayokipo, tu dis, tu fais Tchouba général sur tout, déjà, c'est un bon impact.
Ah, et bon, le lendemain, on va dire,
alors ça, on va faire Tchouba, tu vas dire, je regrette et je prends sur moi, c'est pas mal, maintenant, il faut avancer. Donc, tu prends du Moussard, tout, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas des crêpes, mais il faut avancer. Et ça marche. La Tchouba, elle marche. C'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Je veux quand même finir avec les âmes, pourquoi on est parti en galoute, d'accord? Donc on est parti en galoute pour amener les âmes des convertis. C'est quoi? Une certaine partie des âmes, des étincelles, sont parties dans des corps de non-juifs, et ces étincelles poussent ces gens-là à se convertir, mais il faut qu'ils aient l'exemple des juifs autour d'eux. Donc le fait qu'on soit mêlé à eux, ça a aidé à ce que ces étincelles dans les corps de non-juifs arrive à leur réalisation lorsque le corps va se convertir. Maintenant, ça c'est au niveau du sens simple, au plus profond, ça signifie qu'on devait aller ramener toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait dans le monde entier. Initialement, en venant en terre d'Israël, on avait une capacité spirituelle d'aspirer à distance toutes les étincelles de sainteté par notre travail ici même. Quand un juif étudiait la Torah ici, en Israël, Hashem il souffrait, il faisait tchouva. Il priait, il mangeait, il faisait le tikkun du monde entier. Il y avait des étincelles de sainteté à Tombouctou, ça revenait ici automatiquement. Mais les Israël ont bouché leur aspirateur d'étincelles à distance. Alors, mauvaise action. Donc, nos capacités ont beaucoup, beaucoup baissé. Hachem est obligé de nous envoyer à l'étranger. C'est pas une punition qu'il nous envoie comme ça. C'est une conséquence de notre. Nous, qu'on a un job à faire dans le monde, à Israël, ramener les étincelles. Tu fais la terre d'Israël parce que tu agis comme il faut. Alors ça va très bien, tu n'agis pas comme il faut, il faut aller sur place. C'est pour cela que, deux choses. Premièrement, le peuple d'Israël a été dispersé sur la carte entière du monde. Tu n'as pas un pays au monde où tu n'as pas des Juifs qui ont été où ils sont. Deuxièmement, c'est pour ça qu'il y a eu des expulsions incessantes. Entre l'an 1000 et l'an 1500, tu as en Europe plus de 15 expulsions forcées. Pourquoi? Parce qu'on va à un endroit, allez, en Espagne. Il y avait une communauté en Espagne extraordinaire. Tu fais toute l'aspiration des étincelles de sainteté, terminé, tu pars. Et d'habitude, après que le peuple d'Israël a quitté le pays, il y a une grande dépression. Pourquoi? Vu que les étincelles de sainteté ont été prises, il n'y a plus grand-chose. Après que les Juifs ont quitté l'Espagne, il y a une dépression là-bas. La Tunisie, beaucoup de pays. La Russie, pas toujours. Oui.
Mais par rapport à ça, alors, je ne sais pas que les Juifs se passent par ailleurs.
À un moment, on espère que toutes les étincelles, le job il est fini, on rentre back home et on est terminé.
En France, il y a beaucoup d'étincelles.
C'est clair que la souffrance, quand on n'a pas le job qu'on doit faire, on le fait par la souffrance. La Shoah, c'est clair qu'elle a fait avancer de 3000 ans, au moins. C'est-à-dire, on comprend la Shoah, ce que c'est, en concentré de souffrance. On voit bien qu'après la Shoah, directement, tout le processus s'est mis en marche.
Mais, ok, ça c'est une raison de Deus, il ne semble pas que la Torah a grandi avec l'exil d'une certaine manière. Parce que, par exemple, quand on voit des commentaires de Rashi, par exemple pour les défilés, et ben, il dit que c'est de l'Africain, où il y a des endroits, il va dire ben, c'est du Gaulois, ou des endroits, il va dire c'est des langues qu'il a côtoyées quand il était en France. Et ben la Torah elle a grandi par la galoute et peut-être que c'était nécessaire avec le, pour l'étude de la Torah. Donc la culture.
Rashi, il y a dans le cas de Tanoum, quand il y a le grand-mère de Rashi, Rashi traduit environ 2000 mots en français ancien. Parce que 2000 mots, il y en a environ la moitié qu'on peut comprendre, la moitié qu'on comprendra, parce que c'est du français qui est déjà obsolète, d'accord, qui était déjà qui n'est plus actuel. Mais certains que Rashi il vient expliquer le Talmud, aux Français des fois qui ne comprenaient pas certains mots du Talmud. Ça n'a pas peine de partir en exil pour ça. Les Français auraient parlé d'hébreu, auraient compris la grammaire qui était ici, j'ai pas besoin de le traduire ça en français. Comme tous les bouquins maintenant sont traduits en français, c'est une nécessité de l'exil. Je ne parle pas, pas le mutuel de traduire le chasse en français. Maintenant, les goyim peuvent étudier le chasse, etc. Il y a 5 ou 6 mots dans la Torah qui proviennent, c'est des emprunts d'autres langues. C'est-à-dire que la langue sainte a éclaté, il y a eu quelques parties qui sont parties dans d'autres langues. Je sais pas, c'est pas Rashi qui a inventé ça, c'est marqué dans le Midrash, il y a 2000 ans fait en Israël. T'as des mots en perse, Mechorotem, à propos de Shimon et Lévi. T'as Padan Aram, ceux qui ont lu la paracha de Rashi sur le Padan, c'est différent d'arabe. T'as Lo Yochmemeno Na, Na c'est l'arabe, Naïe signifie cru. T'as un mot en allemand, Schnee, Snow, d'accord, Snir, Snir. C'est le nom de Flamande, parce qu'il y a de la neige dessus. Neige en allemand, nous dit Rashi. T'as un mot en français, mais c'est pas Rashi, c'est le Barthénora qui traduit ça sur le Chandra Rosh Hashanah. Le Yovel, Yovel, c'est le bélier, c'est la corne de bélier. Rabbi Akiva dit que lorsque j'étais en Galia, on appelait le bélier Yovel, Yovelus. Ou Bélier, Bélio, d'accord, Bélio, Bélio en verlan, Bélio, Yovel. Voilà, c'est à peu près tout, qu'est-ce encore comme autre mot.
D'accord, mais par exemple, le Talmud, il est né en Babylonie, il est né en Israël.
Alors, il est clair que la souffrance du peuple d'Israël en exil, comme j'ai expliqué, la souffrance, elle est hélas douloureuse, mais elle produit beaucoup de sainteté. Et lorsqu'il y a eu les moments les plus durs du peuple d'Israël, c'est toujours avant qu'il y ait un grand éclatement, un grand renouveau des spiritualités. Donc il y a eu la destruction du temple, il y a eu la création de la Mishnah. Il y a eu l'exil du peuple d'Israël en Babylonie, il y a eu la composition de la Gemara, du Talmud. Il y a eu les croisades, il y a eu Rashi et Tosfot. Plus Tosfot que Rashi, Rashi, il y a eu les croisades, mais Tosfot déjà. Il y a eu l'expulsion d'Espagne, il y a eu la Kabbalah. Il y a eu les pogroms de Chmielnitsky, de Russie, etc. Il y a eu la Chassidut. Il y a eu la Shoah, le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach.
Oui. Moi, je voulais savoir si un juif et a fait une pierre à verre.
Chemichement.
Il a fait un vol d'Azara, Picoros, tout, il a tout fait.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quand même un lien qui le reliera toujours à Hachem?
Absolument.
Quoi qu'il est, même suicidé,
l'oïdar ou l'oïdar, vu que toutes les âmes juives font partie de l'âme du premier homme, qu'à la fin il faut que tout soit réuni avec Hachem. Donc il est impossible, dans le tikkun qu'il y aura à la fin, qu'il y ait une âme qui ne soit pas là. Simplement, elle va beaucoup, un peu plus souffrir pour arriver à ces situations-là, c'est tout. Mais il est impossible qu'il y ait une partie qui n'arrive pas à son tikkun à Shalem, de gré ou de force. Même ceux à propos duquel il est marqué qu'ils n'ont pas part au Lamba, ils sont out, vraiment out, il est marqué au bouquin de Kabbalah, qu'à la fin, à la fin, à la fin, oui, ils auront aussi à voir. Un beau jour, c'est marqué que l'enfer s'arrête. Ma chair vient, l'enfer continue. Un beau jour, fini, on ferme. C'est marqué qu'il y en a qui continuent encore. Donc l'enfer s'arrête, eux continuent. Pas des heures en plus, des siècles en plus. D'accord, et encore, non. Donc l'enfer, lui, elle est partie, au paradis, tout le monde, l'enfer continue. Ceux-là même, à la fin, ils vont me lancer coup. Bah, ou,